Tous les jours à partir de 9h, l'équipe d'Okapi Service se met entièrement à votre service. Santé, consommation, droits du citoyen, éducation, conseil au monde rural. Les spécialistes répondent en direct à vos questions. Avec ONG Partenaires, l'emploi, le conseil du jour et Service Plus, trouvez des pistes simples pour améliorer la vie de tous les jours. Okapi Service, l'émission libre au service de la Radio de la Paix.
Bon nombre d'enfants étudient dans des mauvaises conditions, d'après les informations reçues. Soit ils se retrouvent dans une classe surpeuplée, et les enfants sont assis à même les sols, faute de bancs, pas de matériel didactique, pas des tableaux, voilà, des conditions très très difficiles. Et une situation qui peut avoir des conséquences néfastes sur le rendement scolaire de l'enfant, surtout lorsque la famille est également dépourvue de moyens. Alors que faut-il faire pour encadrer un tel enfant qui étudie dans de mauvaises conditions, parce que cela peut affecter même sa scolarité? Qu'est-ce qu'il faut-il faire? Otto Michel est expert consultant à l'éducation. Il est également administrateur de l'Agence pour la promotion de l'enseignement. Otto Michel, qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'un enfant étudie dans de mauvaises conditions, comme on vient de les décrire? Comment l'encadrer? Comment l'aider à réussir dans sa scolarité?
Merci Jody. J'ai commencé par saluer tous ceux qui nous suivent de par le monde. Déjà, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est un peu trop tôt. Je propose que nous allions décortiquer un peu ce que peuvent être les conséquences d'études dans ces mauvaises conditions. Les conséquences sont multiples, parce que ça dépend aussi d'abord de qu'est-ce que nous avons comme problème devant nous. Prenons le cas le plus simple et le plus courant, c'est des mauvaises conditions d'accueil, les bancs. Un enfant qui s'assied à même les sols. Lorsqu'on s'assied à même les sols, on a difficile à écrire. Donc pour écrire, le pupitre est utilisé, enfin, c'est sa cuisse qui est prise pour pupitre. Et comme conséquence, l'enfant n'aura pas une belle calligraphie, l'enfant aura du mal à apprendre à écrire, et même sur le plan sanitaire, l'enfant peut à la longue souffrir d'une ostéose.
Donc, c'est une position inconfortable.
Exactement, oui. Mais malheureusement, des cas sont courants.
Il y a encore des écoles comme ça dans nos villages, à travers le pays, qui.
Même à Kinshasa, oui. Il y a quelques-unes, mais il faut reconnaître que de gros efforts ont été fournis pour réduire sensiblement ce genre de situation. Mais on en trouve encore. Même une seule, on en trouve quand même.
Voilà, il y a même, je sens qu'il y a même des tableaux, des écoles où il y a presque pas de tableau noir.
Nous avons assisté à une école ici à Kinshasa où le tableau noir avait la dimension d'une ardoise. Donc c'est presque un morceau de triplex qu'on a ramassé, mais qui sert juste des tableaux. Mais qu'est-ce qu'on peut écrire? Même la date seule ne peut pas prendre du début à la fin. Là, il faut prendre 2-3 lignes pour le faire. Malheureusement, ce sont des cas réels. C'est vrai que c'est assez isolé actuellement, mais ça existe. Les tableaux, non seulement qu'ils sont petits, il y a aussi des écoles qui ont des grands tableaux, mais non peints. Des grands tableaux non peints, ou alors mal peints, ou alors des tableaux avec des trous. Et dans, en fait, ça affecte même la vision de l'enfant. Voilà.
Et quelles sont à la longue les conséquences des études dans de telles conditions? Quel impact ou retombée cela aura sur la formation de l'enfant?
Mais déjà, un enfant normal doit être un voyant. Déjà, des conditions où les tableaux ne sont pas adéquats, la cécité guette l'enfant. C'est-à-dire la malvoyance. Très tôt, très précoce. Si on fait attention, si on prend garde par rapport au cas pareil, on peut avoir toute une génération malade. Tout simplement parce qu'on n'a pas prévenu, on n'a pas pris compte, on n'a pas tenu compte de conditions d'études des enfants.
Voilà, donc ça cela peut affecter la santé des enfants. Et sur le point de vue scolaire, est-ce que cet enfant-là va sortir à la fin de l'année, il sortira avec quelque chose dans la tête?
Mais c'est tout à fait normal. L'enfant va apprendre dans de mauvaises conditions. Mais l'apprentissage, c'est d'abord être dans des conditions psychologiques normales. un enfant qui va apprendre dans une classe qui n'a pas de banc, une classe où l'enfant est assis à même le sol, une classe qui a à peine un morceau de bois qu'on peut appeler tableau. Et tout ça, c'est vrai que l'enfant apprendra, mais n'apprendra pas bien. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut se trouver en face de beaucoup d'enfants qui sont porteurs des diplômes, mais qui ne sont pas diplômés. Ce n'est pas de leur faute, ce sont des conditions d'études qui n'ont pas été bonnes.
Voilà, les conditions d'études n'étaient pas bonnes. Ça, c'est au niveau de l'école. Mais disons qu'au niveau de la famille aussi, un enfant qui est issu d'une famille pauvre, hein, où on ne lui donne pas le nécessaire qu'il faut pour étudier. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela?
Oui, la famille a aussi une part de responsabilité. Non seulement une famille pauvre, il y a aussi des familles qui sont nantis, mais qui ne savent pas s'occuper des enfants valablement. Un enfant qui va à l'école sans rien à manger, ou qui n'a pas mangé le matin, il va quand même à l'école. C'est un problème. Un enfant qui, avant d'aller à l'école, a assisté à une scène de combat entre papa et maman, c'est un problème. Un enfant qui va à l'école, qui est rassuré qu'au retour, il n'y aura rien à manger avant 18 heures, c'est un problème. Donc, tout ça sont des choses qui font que la famille.
Déjà, le fait de ne pas avoir mangé avant d'aller à l'école, est-ce qu'il va étudier dans, voilà.
Oui, il va étudier, mais il va mal étudier. Parce qu'il va quand même. Il va étudier, mais il va mal étudier.
Il peut être là. Il peut commencer à somnoler de temps en temps.
La somnolence, oui, aussi. Mais la somnolence, c'est aussi un autre cas. C'est un enfant qui peut être mal dormi. Il a mal dormi. Il a peut-être dormi en retard. Il a peut-être dormi dans des conditions pas très bonnes.
Et parfois, quand on n'a pas mangé, on a faim, trop faim. Et à un moment donné, on commence à somnoler. Ça peut arriver.
Exactement. Ça arrive. Oui. Ça arrive.
Ça arrive. Alors, il faut s'attendre à des échecs en masse à la fin de l'année scolaire.
J'aime toujours, comme disent nos amis orienteurs, ce sont eux spécialistes qui décortiquent un tout petit peu les causes des échecs. Et parmi les causes des échecs, ils citent entre autres les conditions sociales des enfants au niveau de famille. Et donc, la famille joue un rôle important par rapport à la réussite ou à l'échec de l'enfant. Mais l'école aussi a une grande part de responsabilité dans tout ça.
Mais depuis un moment, il y a même un programme, je crois, du PAM. Dans les écoles, on parle des cantines scolaires où les enfants peuvent venir manger et ça permet de régler ce problème. Lorsque les familles sont trop pauvres, ne peuvent pas les rassurer un bon repas, alors les enfants peuvent aller manger à l'école.
Oui, c'est un bon programme. J'ai vu ça au niveau de l'Équateur, quand j'étais à l'Équateur, au niveau de Mbandaka, au niveau de Bikoro, tous ces tronçons-là.
Oui.
À 10h, c'est et les enfants et les enseignants
qui vont manger.
Qui mangent tous, chacun d'eux, devant son petit plat, une bouillie, une boule de foufou, en train de manger comme il se doit.
Oui.
C'est vrai que c'est assez pas trop honorant, moi je trouve, c'est assez trop colonial, excusez-moi, mais...
Là, ils mangent gratuitement.
C'est gratuit.
C'est gratuit.
C'est gratuit. Le PAM donnait la farine et les huiles et tout ce qu'il fallait. Mais bon, ça a aidé, oui, ça c'est vrai.
Ça a aidé. Mais ça ne vous plaît pas?
Non, moi,
système-là.
Ça ne me plaît pas, oui. Ouais. Aujourd'hui, 50 ans après l'indépendance, je pense que c'est assez fort.
Voilà, nous avons un premier auditeur en ligne fidèle de Kananga. Il nous appelle depuis Kananga. Dans la province du Kassai occidental, les sujets vous intéressent, composez le 081 890 63 94.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capi Service.
Comment faut-il encadrer un enfant qui étudie dans de mauvaises conditions? Fidèle, vous êtes à Kananga, bonjour.
Bonjour Daniel, c'est Fidèle, professeur du collège Saint-Clément.
Ah, Fidèle est professeur au collège Saint-Clément. On vous écoute.
Oui, je vais donner un exemple la plus pratique et puis à la fin là, je vais poser une petite question à notre invité. J'ai rencontré les élèves qui étudiaient dans de bonnes conditions au village là-bas. Mais ils n'avaient pas des enseignants qualifiés. Mais ici, sur la ville de Kananga où je suis, j'ai une école ici qui est en face de moi, qui est en étage, où les élèves étudient dans de mauvaises conditions. Les élèves de 6e, ils n'ont pas des bancs, mais ils n'ont pas des enseignants qualifiés. Maintenant, je voulais poser une question à notre invité. Est-ce que ces élèves-là auront un même rendement? Voilà la question que j'avais à poser.
Ouais, vous dites qu'ils étudient dans de mauvaises conditions, mais ils ont de bons enseignants.
Ils ont de bons enseignants. Oui. Mais ici, de bonnes conditions, ils ont de mauvais enseignants. Mm-hmm. Et ces élèves-là auront le même rendement sur les plans comparatifs, quoi.
Mm-hmm.
Voilà la question.
D'accord. Merci Fidèle. Aimé Minaku nous appelle depuis Iziro, en province orientale. Bonjour Aimé.
Allô, bonjour Jody et bonjour Alexis.
Bonjour.
On vous écoute.
Oui, j'ai deux questions de savoir. La première est celle-ci. Dans des écoles où les élèves étudient dans de mauvaises conditions, par exemple, l'école est bien construite, mais vous verrez dans une salle, il n'y a pas beaucoup de bancs. Sur la salle, vous pouvez retrouver 4 ou 5 élèves. Alors là, il n'y a pas moyen que l'élève écrive aisément. Alors, ma question est de savoir comment l'enseignant peut-il facilement récupérer ou attirer l'attention des élèves aux matières qu'il dispense. Voilà ma première question. La deuxième est de savoir, il y a la maison qui est des...
Oui, Aimé. Voilà, apparemment, elle n'est plus en ligne. Bien, on a quand même retenu sa première question, mais surtout Michel, et la question des fidèles qui est enseignant. Il y a des élèves qui étudient dans des bonnes conditions, mais ils ont des mauvais enseignants, oui. Et d'autres qui ne sont pas dans des bonnes conditions, mais ils ont des bons enseignements. Alors, quel sera le rendement à la fin, Otto Michel?
Je vais répondre d'abord, merci à Fidèle depuis Kananga pour sa préoccupation. Il faut savoir qu'il y a toujours une relation étroite entre les conditions environnementales d'apprentissage et le résultat des élèves. De même, il y a aussi et toujours une relation étroite entre la compétence des enseignants et le rendement des élèves. Ce qui fait que notre ami Fidèle nous propose deux cas où il y a des bons enseignants dans de mauvaises conditions et des mauvais enseignants dans de bonnes conditions. Dans les deux cas, l'idéal serait d'avoir des bons enseignants qui encadre les élèves dans de bonnes conditions. Lorsqu'il y a une des conditions qui pose problème, vouloir ou pas, il y aura des petites répercussions sur le rendement des élèves. Si voilà Isiro, où je serai tout le monde qui a Isiro, parce que je connais bien Isiro.
Comment l'enseignant peut-il accaparer l'attention des élèves qui sont assis peut-être 3 ou 4
5
sur
même.
À 5. Il y a des écoles où les élèves se mettent à 5 sur un banc.
Je dis c'est bon, on me met non. On appelle ces bancs bon city train.
City train.
c'est bon. Oui, exactement. Lorsqu'on a conçu un bon pupitre, c'était pour être occupé par un maximum de 2 élèves. Regardez sur les bancs, il y a des petits trous sur les pupitres qui ressemblent. En fait, c'est l'encrier. Là, on devait poser l'encre ou les stylos. C'est toujours 2. Donc, c'est dire que c'est un banc pour 2 élèves. Déjà, lorsqu'on se met à 3, ça indispose. Déjà, pour écrire, vous allez remarquer que l'enfant... la main, le coude de l'enfant va toucher un autre élève et ça va
gêner,
ça va avoir des répercussions sur l'écriture. Et on peut même aller plus loin. Il n'y a pas que ça comme problème par rapport au banc. Les bancs doivent être à la taille des élèves. Ce qui fait que les bancs pour la sixième année primaire n'auront pas la même hauteur que les bancs du degré élémentaire, par exemple. Lorsque vous prenez un enfant de première et deuxième année primaire, vous le mettez dans la classe de sixième où les bancs sont assez haut placés, les jambes vont flotter. Or, pour écrire, il n'y a pas que la main et les yeux qui interviennent, les jambes jouent un rôle important dans l'écriture de quelque chose. Ce qui fait que j'ai recommandé que celui qui écrit ait des jambes bien posées à même le sol et dans une position que l'enseignant lui apprend, bien sûr. Donc, s'il est droitier, la jambe gauche sera légèrement avancée vers le devant, bien posée à même le sol, et la jambe droite est légèrement en arrière. Et ce sont des bonnes conditions pour que l'enfant écrive normalement.
Donc il faut mettre fin aux bancs si titres hein,
non, vraiment, qui non, prennent. Ce n'est pas encouragé.
C'est pas encouragé. Et Soko, hein, et par rapport à sa question, donc l'enseignant ne sera pas en mesure de captiver l'attention des élèves qui sont sur un banc si titres.
Malheureusement, l'enseignant est obligé parce que même dans des conditions difficiles, il n'a pas le choix. Parce que on n'a que ça comme condition. Mm-hmm. Ce qu'il faut maintenant faire, c'est que l'enseignant doit être assez méthodique, assez un bon enseignant, assez spécialiste pour constamment réveiller les élèves. Mais les conditions matérielles sont très difficiles.
Oui.
Et ça a des répercussions sur l'apprentissage.
Et Sokowa nous appelle de Kindu dans la province du Maniema. Bonjour.
Bonjour grand frère. Bonjour sur l'invité.
Quelle est votre question, Sokowa?
J'ai presque deux questions à poser à l'invité. Ok, je connais une école buissonnière. Dis bien buissonnière.
Buissonnière.
Cette école est vraiment. Allô?
Oui, vous dites école buissonnière.
Buissonnière, exactement.
Oui.
En tout cas, les élèves là, parce que moi j'étais sur place, les élèves étudient dans les mauvaises conditions. Donc, les manquements même des matériels. Et ces enfants-là, même pendant 10 heures. Les professeurs ne sont pas vraiment complets dans une école, mais ça c'est grave. À la fin de l'année, cette école est 100%. Donc à la fin de l'année, c'est de la participation des examens d'État.
100%.
Comment les députés peuvent dire de cela? Mmh. Voilà. Donc, deuxième préoccupation.
Oui.
C'est des préoccupations. Et là, les enfants, là, avant de partir à l'école, il faut qu'ils mangent des aliments, là, des nourritures à laisser. Des milliers de là qui étaient laissés avant-hier. Maintenant, quand j'étais enfant, la maman me parlait qu'il faut manger ces nourritures-là. Donc, vous n'aurez rien. Vous n'aurez rien à l'école pour réussir. Alors, je ne sais pas si ça fait aussi partir de l'aide des facteurs. Et pour manger ces millets là. Merci, ce sont les deux questions que je voulais poser à l'invité.
Non, et Soko, vous dites que votre maman vous disait que si vous mangez la nourriture d'hier, vous allez échouer à l'école.
Ok, quand vous mangez les nourritures là, laissées, hein, les oui. nourritures là, laissées, on a mangé pendant la nuit, en tout cas, le matin, il faut encore revenir pour manger. Alors, je ne sais pas si cela fait partie aussi de l'œuf à départir pour de mauvaises conditions.
D'accord. Dani nous appelle de Manono dans la forêt du Katanga. Bonjour Dani.
Ok, bonjour JR, c'est Dani, ça a de Manono.
Dani, c'est pas JR, c'est jeudi. Quelle est votre question?
Oui, ma préoccupation est la suivante. Je veux demander un peu à notre invité,
oui.
parce que tout au début, là, il a énuméré les points qui peuvent contribuer à une bonne condition de l'enfant à l'école. Alors, je veux lui demander de quels conseils qu'il peut donner, parce que, par exemple, ici chez nous, à Manon, il y a des écoles-là qui sont dans de bonnes conditions, bien construites, bien organisées. Alors, quand l'enfant, vous allez faire inscrire ton enfant à cette école, on vous conditionne de payer de telles choses, des chaussures, de ceci, de cela, donc des conditions là qui ne permettent pas même à un enfant qui peut après encourager un parent de partir avec son enfant à cette école. Alors, quel est le conseil que vous pouvez donner à ces chefs d'établissement ou bien à ces écoles qui font ça? Deuxième préoccupation. Quel est le conseil que notre invité encore peut donner à un enfant qui étudie alors, qui se retrouve à l'âge donc, de puberté, donc qui est embrouillé par la situation de la prostitution et qui ne veut pas chez tout l'école, alors c'était comment est-ce que je peux conduire cet enfant si l'invité peut nous donner un peu de l'exercice? C'était ça, j'ai dit.
Merci, Dani. Auto-Michel, je vais la parole.
Merci beaucoup. Je voudrais saluer Sakowa depuis Kindu, à travers le tous ceux qui habitent Kindu.
Mm-hmm.
Franchement, il nous a posé deux questions très bonnes. La première, c'est comment expliquer que dans une école où les enfants étudient dans de très mauvaises conditions,
mais à la fin
de l'année, tout le monde
100%.
A 100%. Non, il y a une différence entre être diplômé et avoir un diplôme. tous ces élèves-là ne sont pas des diplômés, mais ils ont des diplômes. Mais c'est clair parce que lui-même, Sokoa, reconnaît qu'ils étudient dans de mauvaises conditions. Donc, par conséquent, ils n'ont pas le niveau requis.
On dit souvent dans les écoles publiques, hein, c'est là où les élèves étudient dans de très très mauvaises conditions.
Les écoles publiques
par rapport aux écoles privées.
Les écoles publiques d'hier, d'accord. Celle d'aujourd'hui, je crois qu'il y a une nette augmentation. Vraiment, ça, il faut reconnaître. Il y a une nette augmentation des écoles, les conditions dans des écoles publiques par rapport aux écoles privées, qui, au contraire, posent encore des petits problèmes, oui. Donc, cette question-là, c'est clair. Ce sont des 100% apparents qui ne sont en rien le vrai 100%.
Qui ne reflètent pas la réalité.
Non, non, non. Ce sont des enfants qui aujourd'hui ne savent pas très bien écrire, très bien s'exprimer, qui ont difficile dans la vie de chaque jour. Et il pose encore la question par rapport
à la nourriture.
À la nourriture.
Oui.
Je ne sais pas, est-ce que ça, c'est pas psychologique? Parce que c'est connu aujourd'hui, on dit que les foufous et lala, à l'école, tu vas aller dormir. Oui, c'est vrai, il y a de ceux, si vous mettez en tête, qu'en mangeant ces foufous d'hier, je vais aller dormir, oui, vous allez réellement dormir en classe. Donc, je ne vois pas qu'il y ait, au contraire, il est plutôt recommandé que l'enfant ait quelque chose à manger avant d'aller à l'école. C'est très, très important.
Et l'enfant mange, avant d'aller à l'école, il doit bien manger.
Il doit bien manger.
Ou le matin, prend son petit déjeuner. Pour ceux-là qui sont...
C'est ça, manger.
Oui, c'est ça, manger.
C'est important de manger. Et puis
ceux qui vont les après-midi, ils peuvent prendre un plat bien consistant.
Le repas matinal est très important.
Oui.
Nous dirons le médecin. Moi, je ne suis pas médecin, mais ils disent toujours que bien manger le matin a une incidence positive sur la vie de chaque jour.
D'accord.
Voilà.
Alors, avant de répondre à Dani, nous allons accueillir Richard, qui nous appelle de Londres, en Grande-Bretagne. Bonjour, Richard.
Oui, bonjour. Bonjour Michel. Bonjour Jody.
Bonjour. On vous écoute, Richard.
Voilà, c'est un plaisir d'avoir Michel en ligne. Malheureusement, c'est par radio interposée. Je connais très bien depuis une vingtaine d'années. Est-ce que on peut pas voir le problème des conditions d'études de ces enfants dans la place qu'occupe l'éducation dans les priorités de l'État? C'est-à-dire quel est aujourd'hui le budget de l'éducation dans le budget global, d'une part, mais d'autre part, est-ce que les conditions ne sont pas aussi accentuées par les raquettes qu'opèrent certaines écoles avec les parents? Et pour ne pas monopoliser la ligne trop longtemps, je me pose juste la question, comment expliquer que nous soyons un grand producteur et exportateur de bois et que là, on passe encore le temps à parler des problèmes des bancs? Voilà.
Merci Richard. Auto Michel.
Je voudrais saluer Richard pour votre information. Richard a été le promoteur de l'école des humanités où j'ai étudié.
Ah,
donc je le salue en passant.
Et il a dit qu'il vous connaissait depuis 20 ans.
Oui, donc il a contribué à ce que je sois, ce que je suis aujourd'hui.
Ah, ça c'est bien.
Oui, c'est vrai que le pays est un grand producteur de bois, mais je vais surprendre et à Richard et à tous ceux qui le suivent qu'il y a des bancs aujourd'hui dans les écoles. C'est un bambou de Chine qui vous sert à la fois de fessier, à la fois de table. Non, ne me regarde pas comme ça, je vous dis c'est la réalité.
Mais oui,
c'est malheureusement, c'est ça. Non. Ce sont des choses vraies, vécues.
Bambou de Chine. Vérifiées.
Un bambou de Chine comme table et un bambou de Chine comme fessier, donc comme banc sur lequel l'enfant se met. Et à quelle hauteur? C'est encore un problème.
Mais est-ce que ces enfants-là ont même des cahiers? Ça aussi, c'est un problème.
On va arriver. Mais si ils ont des cahiers, ces bambous de Chine-là, il est déjà circulaire. C'est un cylindre. Comment est-ce que l'élève va aller poser son banc pour écrire? Et c'est ça les vieux enseignants d'hier qui s'éprennent aujourd'hui. Les enfants d'aujourd'hui ne savent pas écrire. Oui, c'est très bien de dire ça. Mais dans quelles conditions vous nous mettez, nous les enfants d'aujourd'hui? Richard a aussi évoqué, est-ce que ceci n'est pas dû à la place...
Le budget, que l'État accorde à l'enseignement, surtout par rapport au budget qui est accordé à l'enseignement.
C'est pas faux comme observation. C'est pas faux parce que c'est les conditions d'hier où les budgets étaient très consistants, les conditions étaient meilleures. On remarque aujourd'hui... Il y a plein d'écoles qui naissent du jour au jour, mais qui fonctionnent dans de mauvaises conditions. C'est que les budgets de l'État a aussi on peut trouver des causes dans les budgets de l'État aussi. Mmh.
Ouais. Là, on n'a encore pas assez de moyens pour développer les secteurs éducatifs. Ce qui fait que les enfants, à travers le pays, étudient dans de mauvaises conditions. Mm-hmm. Alors, Dany de Manono dit il y a des écoles qui demandent un peu trop aux parents aussi. Il voudrait que vous puissiez lui dire quelque chose par rapport à ça. Et un élève qui a atteint l'âge de la puberté, qui s'adonne à une élève qui s'adonne peut-être à la prostitution par cause des mauvaises conditions familiales, ça l'aide peut-être à aller payer ses études. Alors, qu'est-ce que vous pouvez lui dire par rapport?
Peut-être que la question, je vais la reformuler autrement par rapport à ce que j'ai vécu. Mm. Moi, je ne voulais pas dans un bureau climatisé comme toujours, comme ici. Non, je suis un homme du terrain, oui. Je suis dans les Congos profonds où j'ai vu des choses et tout ça. Mm. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, les filles, pour la plupart, c'est vrai, commencent à aller à l'école, mais hier, aller à l'école, c'était beaucoup plus pour les garçons. Ce qui fait que les filles vont à l'école généralement avec un léger retard. Et les enseignants, au village, vous savez, les filles déjà en 5e, 6e primaire, c'est une grande fille, elle est mariable, vous voyez. Et tout cela, sans tenir compte de ce que dit la loi. Alors, cet enfant qui va à l'école, déjà va se trouver une grande sœur, une maman par rapport à ses collègues petits garçons qui sont encore des nains là. Il y a déjà un complexe dans la fille. Elle est grande de taille, elle doit étudier avec des petits enfants, et si par hasard, par erreur, elle n'est pas intelligente, elle ne s'applique pas très bien, elle sera objet de moqueries. Et là, ça pose problème et ça décourage même les élèves à pouvoir continuer. Il n'y a pas que les filles qui sont victimes de cela, les garçons aussi qui ont une croissance assez rapide peuvent aussi être victimes de ce genre de comportement. Mmh.
Voilà, à part l'école qui n'offre pas les meilleures conditions, il y a également la famille. Quand la famille n'a pas assez de moyens, aujourd'hui on apprend qu'il y a des enfants qui font les tous les cas qui s'en gagnent par exemple la journée et ça lui permet de revenir un peu d'argent.
Oui, oui.
Et aller Mandaka. Étudier. Mandaka, ouais, voilà, c'est pareil, ou des enfants qui font qui vont vendre.
Mais ici, ils font le tirage toute la journée, ou le vernis, tu parles avec l'enfant, mais autant Nakate a dit non, Nazatour à midi, non, le matin il bosse parce que les parents n'ont pas de quoi payer de bénévoles pour cet enfant-là.
Mais alors, comment aider tous ces enfants qui étudient dans des conditions difficiles pour réussir leur scolarité? Que faut-il faire, Otto Michel?
L'école a une part de responsabilité, il doit avoir des conditions de travail, d'accueil. Les familles ont une part de responsabilité, elles doivent améliorer les conditions de vie. Mmh. L'État, surtout, a toute la part de responsabilité. Donc l'État devra mettre à l'aise à la fois les familles, mais aussi à la fois les écoles. Je crois que ça peut, tant soit peu, améliorer le rendement des élèves et on peut avancer. Sans ça, c'est difficile.
Mmh. Il semble que les communautés aussi, la communauté peut s'organiser. Dans un village, par exemple, il n'y a pas assez de bonnes écoles. La communauté peut faire un projet, solliciter un soutien quelque part pour réhabiliter l'école.
Ça, c'est vivement recommandé, surtout avec des projets de l'USAID, le projet Paquet qui a déjà fermé dans beaucoup de provinces. On recommande, on encourage les parents à se retrouver ensemble, à faire des projets par rapport aux besoins réels des écoles de leur communauté, et qui doivent aussi travailler en partenariat avec le comité de gestion des écoles. Donc c'est important. Mais les parents doivent aussi aider parce que, qu'est-ce qu'on constate? Une école, par exemple, je prends le cas de certaines provinces où l'école évolue, il y a juste une toiture et les murs sont faits en chaume. Il suffit qu'un vent violent passe pour que les chambres soient parties, mais les parents qui, au lieu d'aider l'école à pouvoir remplacer ces murs ou carrément faire des murs de bonne qualité, les parents généralement n'aident pas. Ils pensent que l'école, c'est pour le directeur. Ils oublient que l'école, c'est le bien de la communauté et non pas du directeur qui n'a été qu'affecté, qui demain peut être remplacé. Donc c'est le temps de rappeler que c'est l'école du village et non l'école dans le village.
Voilà. Emmanuel nous appelle des Dungu en province orientale. Emmanuel, bonjour.
Oui, allô.
Emmanuel, bonjour, quelle est votre question?
Oui, bonjour Radio Capi. Ma préoccupation, c'est le site.
Oui.
Il y a d'autres enfants donc qui partent à l'école sans manger. Mais ils échouent en disant que c'est la faim qui leur fait comme ça.
Mmh.
C'est réellement, donc avant d'aller à l'école, il faut manger ou non.
Voilà, certains enfants affirment qu'ils ont échoué parce que ils n'ont pas mangé. Auto Michel.
Oui.
Voilà, c'est là qu'est-ce que vous pouvez dire à Emmanuel de Dungu?
Oui et non. Oui et non, parce que normalement, tout le monde doit manger. Aller à l'école demande des efforts mentaux, des efforts mentaux. Et donc, ces efforts-là peuvent être annihilés lorsque on n'est pas fort, lorsqu'on n'a pas mangé, lorsqu'on est faible. Et donc, ça pose problème. Donc, un enfant qui dit que il n'a pas réussi parce qu'il n'a pas mangé, ça dépend. Il n'a pas mangé pendant combien de temps? Est-ce que c'est chaque jour qu'il ne mangeait pas le matin? Ce qui n'est pas très, très, très possible. En tout cas, entre nous soit dit. Peut-être qu'une fois, il n'a pas mangé. Oui, ça peut arriver. Un matin, il n'a pas mangé. Oui, ça peut arriver. Mais dire que du mois de septembre en fin juin, chaque jour, l'enfant va à l'école affamé. Il faut un peu vérifier ce cas.
Il y a des familles qui n'ont pas de moyens.
Oui, c'est vrai, mais chaque jour, non. Pour la plupart de temps en temps, oui. Mais malheureusement, ça peut aussi être une des causes d'échec. Parce que on dit, ventre affamé n'a point d'oreille. Oui, on n'a pas mangé, on est là. Pendant que les profs parlent mathématiques, toi, tu es en train de penser au petit pain. Tu es en train de penser à ton mollet que tu n'as pas mangé. Mmh. Et ça pose problème.
David, vous êtes à Beni au Nord Kivu. Bonjour. Quelle est votre question?
Oui, je ne suis pas à Beni, je suis à Kalima.
Vous êtes plutôt à Kalima.
Au Maniema.
Merci, Kalima, dans la province du Maniema. D'accord, merci.
Je suis chef d'établissement dans une école publique dénommée EPD Nibake.
Ok.
EPD Nibake à la cité de Kakuti à Kalima.
D'accord.
Je voudrais dire ceci à l'invité.
Mmh.
Jadis, mon école était dans un état très pité. Mais actuellement, les OGD sont venus nous épauler et nous avons un bon bâtiment.
Mmh.
Avec ce bon bâtiment, nos enfants réussissent au test du fait de l'année, communément appelé Penafer.
Mmh.
Voilà, jadis, nos salles de classe étaient couvertes de rameaux, c'était seulement des hangars.
Mmh.
Vous voyez combien des fois un bon bâtiment nous a facilité la tâche et nous avons beaucoup d'élèves.
Est-ce que vous avez des bancs? Vous avez des bancs?
Deuxième volet, s'il vous plaît.
Oui.
Je voudrais faire que les cantines scolaires reviennent par les PAM. Ces cantines nous aidaient beaucoup et les enfants venaient en masse à l'école. J'ai dit.
Voilà, vous voulez que les cantines scolaires reviennent et pourquoi ça a été arrêté?
Ah, c'est pas moi, c'est le problème du gouvernement, hein.
Voilà, les cantines scolaires, que les enfants reviennent, que le pain puisse leur fournir des sacs de farine, de l'huile, la nourriture à l'école, pour permettre aux enfants de manger et qu'on soit à mesure de bien travailler. Mais Otto Michel n'est pas tout à fait d'accord avec cette, cette option.
Non, plutôt je voulais réagir par rapport à notre directeur, que j'ai salué aussi.
Oui.
DPS, c'est bien d'avoir des bons bâtiments, c'est très bien, félicitations à vous. Mais jusqu'à combien de temps ces bâtiments vont garder leur état de propriété? Parce que 2-3 mois plus tard, 6 mois, 2 ans plus tard, vous allez voir, ça commence à suinter, il y aurait les toits d'araignée partout. Vous allez vouloir toujours que les mêmes partenaires éducatifs qui vous ont aidé à construire ce bâtiment viennent pour repeindre le bâtiment, viennent même pour enlever la toile d'araignée qui reste attachée au plafond. Par rapport aux cantines populaires, c'est une très bonne idée.
Cantine scolaire,
merci. Oui. C'est une très bonne idée, mais il n'y a pas que le PAM qui doit faire ça. Vous, le comité de gestion, en connivence avec le comité des parents, il y a la possibilité, il y a toujours moyen de s'entendre et de mettre sur pied, de faire fonctionner des cantines scolaires. C'est pas impossible. Ne pensez pas que les bonnes notes sont toujours chez les voisins. Non. Nous-mêmes, là, on est à Kalima, là-bas. C'est quand même une grande cité avec c'est un millier forestier, avec beaucoup de bananes, avec beaucoup d'ignames, beaucoup de gibiers. Donc, on peut toujours réfléchir pour mettre sur pied les cantines scolaires. Donc, n'attendez pas que le PAM vienne, parce que le PAM ne viendra pas toujours. Il viendra jusqu'à quand?
Mmh. Donc les écoles peuvent s'organiser, la communauté.
Sans problème. C'est encourageant d'ailleurs.
C'est encourageant. Ouais. Les donner la nourriture aux enfants, et ça leur permet d'être forts et de bien étudier. Voilà. Merci Otto, Michel. On retient que pour encadrer les enfants qui étudient dans de mauvaises conditions, vous avez dit, premièrement, il y a la part
de l'État, de l'école,
beaucoup de moyens, n'est-ce pas, pour améliorer les conditions d'études des enfants, l'école et la communauté. On en parle aussi de la communauté qui doit s'organiser pour, n'est-ce pas, offrir aux enfants des meilleures conditions d'études. Alors que si ces conditions ne sont pas réunies, qu'est-ce que cela va entraîner? Certainement des échecs.
Des échecs et des réussites, ou alors des mauvaises réussites.
Des mauvaises réussites.
Des mauvaises réussites.
C'est-à-dire
Non, mais c'est comme les 100% que nous avons vu là-bas.
Oui.
Notre ami qui a dit, ils font 100%, mais il reconnaît que les conseils d'études ne sont pas bonnes. Et ce serait des mauvaises réussites. Et ça, c'est dangereux pour la communauté, c'est très dangereux pour la société. Voilà.
Et par rapport au matériel didactique, ça, il y a aussi, si l'école n'en a pas, est-ce que les enfants peuvent étudier dans de bonnes conditions sans ce matériel?
Matériel didactique, une notion qui je sais que va donner naissance à beaucoup de débats. D'abord, il est obligé que chaque ancien instituteur de l'école primaire, qu'à chaque leçon, qu'on fasse usage de matériel didactique. Mais très peu d'écoles en font usage. La principale raison qu'ils avancent, c'est que on n'a pas d'argent pour acheter le matériel didactique. Alors que dans la formation de tout enseignant, il y a une partie où on apprend à l'enseignant lui-même comment fabriquer un matériel didactique à partir des éléments locaux qu'on trouve dans ce milieu de vie. Mais bizarrement, nous enseignants, pour la plupart, nous préférons le matériel importé qui ne sont pas toujours à notre portée, et ça bloque. Est-ce que c'est par ignorance? Est-ce que c'est par mauvaise foi? Est-ce que c'est par quoi? Je comprends pas trop bien.
Et ça ne facilite pas la compréhension de la leçon?
Non, parce qu'il y a un principe. Il y a un principe qui dit toutes les connaissances entrent par les sens. Or, cette phrase ne peut être vécue que grâce au matériel didactique. Prenez le cas d'un enfant à qui on apprend la notion du goût sucré. Tu dis à l'enfant, oh, moni fanta melakawana, fanta wana. Les goûts que tu sens, c'est ce qu'on appelle sucré. Le bas sucré, tout le monde, vous avez compris? Oui. Celui qui dira, il n'a pas compris, il a des problèmes avec l'enseignant. Donc, c'est pas comme ça qu'on devait enseigner. Plutôt, on devait passer par goûter, parce que
on amène des bonbons,
tout ce qui peut être sucré,
sucré.
On commençait par faire goûter cela aux élèves, et on dirait, mais qu'est-ce que tu sens? Même une simple banane, la banane, c'est pas compliqué. Ces goûts que tu sens là, c'est ce qu'on appelle le goût sucré. Mais au pays, il y a aussi des écoles qui ont plein de matériel didactique, mais qui ne servent que à orner les bureaux. Les directeurs se plaignent des fois. Mais au bureau ici, il y a des matériels didactiques, mais les enseignants ne viennent pas les prendre pour les utiliser. Et ça pose problème. Donc, les matériels didactiques, nous encourageons les enseignants et les écoles.
On voit même dans les bureaux de certains préfets, directeurs, les globes, tout ça, cartes géographiques, qui devaient se retrouver dans les salles de classe.
Ornement. Pour impressionner les parents, pour impressionner l'inspection, pour impressionner les visiteurs.
Oui.
C'est l'ornement. Ouais. La preuve est qu'aujourd'hui, va poser la question à 10 enfants de Kinshasa qui facilement savent convertir, ils savent te dire qu'un kilomètre égale 1000 mètres. Mais demain, cet enfant-là, regarde-moi, ou toi là, tu mesures combien de kilomètres? Il dira 20 kilomètres, 5 kilomètres.
Combien de mètres?
Non, tu mesures combien de kilomètres? Il va te dire, tu mesures 20 kilomètres, 5 kilomètres.
Oui.
Alors qu'ils savent convertir facilement toutes ces mesures-là sur papier. Donc, les écoles donnent des notions livresques, mais pas de notions de vie. Ce qui fait que ça pose problème aujourd'hui. Un enfant qui va demander à votre enfant, vous pesez combien de grammes? Gramme. Un enfant ne va pas peser des grammes, ce sont des kilos normalement. Mais il y a une réponse qu'il va vous donner. Comment c'est? Même nous parents là, nous sommes avec nos enfants, demandons-leur combien de kilomètres mesure-t-il, demandons-leur combien de grammes ou combien de kilos pèse-t-il. Les réponses que vous aurez, vous allez vous faire une idée d'à peu près à quoi ressemble l'école où votre enfant va chaque matin.
Voilà, donc le matériel didactique contribue à la formation des enfants. Il faut beaucoup en avoir pour que les enfants étudient dans de bonnes conditions. Autant Michel, nous vous disons merci. Je rappelle que vous êtes expert consultant en éducation et vous êtes coordonnateur d'une
agence pour la promotion de l'enseignement. Qui est sur Facebook. C'est un groupe de discussion sur l'éducation qu'on peut visiter et discuter ensemble.
D'accord. Michel, merci et bonne journée.
Merci beaucoup.